Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, dans le psaume 103. Nous allons regarder la suite. Nous avions commencé il y a 2 semaines à voir le début de ce psaume et nous allons voir la deuxième partie. Lisons le psaume en entier, psaume 103, un psaume de David. Voici la parole de Dieu, le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Comme j'ai dit, nous avons regardé les 5 premiers versets il y a 2 semaines. On a vu que le roi David cherche à motiver son cœur à louer le Seigneur et plusieurs reprises il répète cette phrase: Mon âme bénit l'Éternel. Et dans les versets 2 à 5, on a vu le rôle puissant de la gratitude dans la motivation de la louange envers Dieu. Et David le dit: N'oublie aucun de ses bienfaits. Et il enchaîne avec un récit impressionnant des bénédictions pour lesquelles chaque croyant devrait louer le Seigneur avec un cœur plein de gratitude. Il y a le pardon des péchés, il y a la guérison, la rédemption, le couronnement, la satisfaction, le renouvellement. Si on veut vraiment vivre pour la gloire de Dieu, on va exercer notre cœur à ce genre de souvenir. On va lire, on va méditer, on va prier dans le but de devenir de plus en plus reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et dans le reste du psaume, à partir de verset 6, David va se concentrer sur 2 motivations pour vivre une vie de louange à Dieu. Il y a l'amour pour Dieu, il y a aussi la crainte respectueuse devant la grandeur et la majesté de Dieu. Et pour être équilibré dans la vie spirituelle, on a besoin de ces 2 choses. L'amour pour Dieu, mais aussi le respect, la crainte respectueuse. Un auteur écrit, Il dit ceci, cherchez à grandir dans la crainte de Dieu sans grandir aussi dans notre compréhension de son amour peut nous amener à commencer à considérer Dieu comme lointain et austère. Mais chercher à grandir dans notre conscience de l'amour de Dieu sans grandir aussi dans notre révérence et notre crainte de lui peut nous amener à considérer Dieu comme un Père céleste permissif et indulgent qui ne s'occupe pas de notre péché. On a besoin de cet équilibre et David établit cet équilibre parfait dans les versets 6 à 22 de ce psaume 103 que nous voulons considérer ce matin. Et il présente à son âme de nombreuses raisons d'aimer Dieu et de maintenir cette crainte, ce respect devant la majesté et la grandeur de Dieu. Et le premier point, nous allons l'intituler « Aimer l'amour de Dieu ». Et la première chose que nous voulons considérer dans ce passage, qui commence donc à partir du verset 6, c'est cette merveilleuse présentation que David fait de l'amour de Dieu pour nous dans le salut. Une image qui est calculée pour que son cœur et que nos cœurs répondent avec amour à l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et le verset clé de ce passage, c'est le verset 8. Il y a cette déclaration, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Et comme l'apôtre Paul va le faire plus tard, David rassemble diverses paroles pour élever nos cœurs à la louange de Dieu. Ce sont les gloires de l'amour de Dieu dont tout notre salut découle. De la miséricorde de Dieu, nous obtenons le pardon. De sa grâce, nous obtenons la faveur. De la souffrance, nous gagnons sa patience. De l'amour inébranlable, nous recevons la bonté généreuse de Dieu. David réalise le grand amour, plein de compassion de Dieu. Il voit combien sa bonté est réelle, combien sa bonté est précieuse, et il répond à Dieu, avec cet amour pour Dieu. Et dans les versets 6 à 14, David va développer son cas pour l'amour de Dieu. Il va d'abord prouver l'amour de Dieu, il va présenter l'amour de Dieu, il va mesurer l'amour de Dieu, et ensuite il va illustrer l'amour de Dieu. Premier petit point, petit A, d'abord, David prouve l'amour de Dieu. On se rappelle que David a écrit ce psaume 10 siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et à son époque, le grand épisode dans l'histoire du salut, c'était l'Exode d'Israël. Et David se tourne vers cet événement comme une preuve certaine de l'amour de Dieu. Versets 6 et 7, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Dans l'Exode, Dieu a rendu justice à son peuple en brisant les liens de leur captivité, en les conduisant dans la liberté vers la terre de la promesse. Mais plus important encore, Dieu a fourni une voie de justice à son peuple à travers les sacrifices, des sacrifices de sang qui pointaient bien sûr vers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Par la délivrance de l'Exode, Dieu a prouvé à son peuple et à David combien il les aimait. Et c'est ce que Moïse lui-même a souligné dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8. Moïse dit ceci, il parle bien sûr au nom de l'Éternel, il dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » L'Exode a prouvé l'amour de Dieu pour son peuple. Et cela demandait l'amour d'Israël en retour, l'amour pour Dieu. Deutéronome 6, verset 5, et le Seigneur Jésus va se référer à ce verset en disant que c'était le commandement principal de tout l'Ancien Testament. Deutéronome 6, verset 5 dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors si David regarde en arrière dans son temps, à son époque, à l'Exode, et qu'il a vu une grande preuve de l'amour de Dieu, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui au sujet de la croix du Seigneur Jésus-Christ? C'est certainement la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour un monde rebelle. Si on croit vraiment ce que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 5, verset 8, par exemple, on ne douterait jamais de l'amour de Dieu pour nous, même au milieu des plus grandes épreuves de la vie. Romains 5, verset 8, l'apôtre Paul parle de la croix. Il proclame que Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment peut-on douter de l'amour de quelqu'un qui vient mourir à notre place? C'est ce que Dieu a fait dans la personne de son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, entre autres raisons, nous puissions l'aimer en retour. Deuxième petit point, David va présenter l'amour de Dieu. Les versets 9 et 10 continuent. Ils nous disent que la plus belle présentation de l'amour de Dieu se voit dans la façon dont Dieu répond, dont Dieu réagit à nos péchés. Il dit « Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Le fait même que Dieu nous ait placés sur cette terre en faisant briller le soleil, en faisant tomber la pluie, prouve son amour pour nous. Mais la plus grande présentation, la plus grande manifestation de son amour se voit dans sa réaction, dans sa réponse à notre péché. Bien sûr, Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le péché et il cherche à nous amener à une conviction de péché. Mais pour ceux qui sont à lui, pour ceux qui sont couverts par le sang de Christ, Dieu ne nous réprimande pas constamment. Il ne nourrit aucune rancune. Si Dieu répondait seulement dans sa justice sainte, il nous éradiquerait dès que nous commetterions le premier péché. Et le psalmiste David dit au verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Cela veut dire qu'il y a un autre principe qui agit en Dieu. Son amour pour nous. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu ne nourrit aucune rancune pour nos péchés. Trop de croyants sont déprimés quand ils ont conscience de le péché, parce qu'ils supposent que Dieu va se retourner contre eux en permanence. Mais sans prendre nos péchés à la légère, nos péchés devraient nous amener à louer Dieu à cause de son amour, un amour qui n'est pas vaincu, même par nos transgressions. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. David avait raison de s'écrier « Mon âme, bénis l'Éternel ». Troisième petit point, David va mesurer l'amour de Dieu. Et les versets 11 et 12 continuent, et ce sont sans doute parmi les versets les plus aimés de tout ce livre des psaumes. Il présente cette mesure incommensurable, infinie, de l'amour de Dieu. Verset 11 déclare « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » L'amour de Dieu est infini, il est au-delà de toute mesure, au-delà de tout calcul. Il y a un événement célèbre, et c'est passé il y a quelques années, plusieurs années plutôt, quand le premier cosmonaute russe est entré dans l'espace Il était athée, il s'est moqué. Il a dit, je suis entré au ciel et je ne vois pas de Dieu ici. Mais à la lumière de ce verset, il aurait plutôt dû crier, je suis entré dans l'espace. Je vois qu'il y a une distance infinie avec les cieux. Et aussi haute que soit cette mesure, l'étendue infinie du ciel, l'amour de Dieu est encore plus grand pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui lui appartiennent. Et le verset 12 va appliquer cette mesure directement à la question cruciale du pardon. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Parfois, on peut être amené à se poser la question, mais dans quelle mesure peut-on vraiment me pardonner? On réalise combien il est difficile pour nous de pardonner les choses que les autres nous ont faites. Et on soupçonne que la même chose est vraie pour Dieu. Et voici la réponse de Dieu. L'Est est la chose la plus éloignée de l'Ouest. C'est une distance infinie. Et c'est à cette distance que Dieu a enlevé nos péchés en Jésus-Christ. C'est la mesure de l'amour de Dieu pour son peuple. Cette élimination totale de la culpabilité a été illustrée dans l'Ancien Testament auprès du peuple d'Israël par l'un des rites que l'on trouve au jour des expiations. C'était le seul jour de l'année où tout le peuple, toute la nation venait devant Dieu pour être pardonné. Et on lit cela en Lévitique chapitre 16. Et le souverain sacrificateur prenait deux boucs. L'un était sacrifié, ce qui symbolisait, qui annonçait le sang du Seigneur Jésus-Christ qui allait être versé pour l'expiation de nos péchés. L'autre était le bouc émissaire. Et sur ce bouc, le sacrificateur posait ses mains, il plaçait symboliquement les péchés de tout le peuple sur ce bouc. Et ce bouc émissaire était ensuite conduit à un endroit éloigné où il était libéré et il disparaissait de la vue du peuple pour toujours. Le bouc émissaire qui a été tué symbolise le sang de Christ, le sang expiatoire qui a été versé pour nos fautes, pour nos péchés. Le bouc émissaire symbolise ce qui est arrivé à nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand on confesse son péché, quand on vient à Dieu pour être purifié de nos péchés par le Seigneur Jésus-Christ, on n'entendra plus parler de ses péchés de sa part. Dieu ne va pas ressusciter ses péchés dans quelques années. Non, ils ont disparu, lavés. Ils ne sont pas suspendus au-dessus de notre tête pour venir envenimer notre relation avec lui. Nos péchés sont pardonnés en Christ. Ils ne font plus obstacle à l'amour de Dieu. Comme il le dit en Hébreux 8, verset 12, une citation de Jérémie 31, « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans son livre « Connaître Dieu », Packer écrit ceci, « L'amour se mesure à ce qu'il donne, et Dieu a donné son propre Fils. » Il l'a donné afin qu'il soit fait homme et meure pour les péchés des hommes, devenant ainsi le seul médiateur capable de nous conduire à Dieu. Quoi d'étonnant à ce que Paul parle du grand amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. David a prouvé, il a présenté, il a mesuré l'amour de Dieu. Quatrième petit point, il va illustrer l'amour de Dieu. Les versets 13-14 viennent compléter cette présentation par une illustration de l'amour de Dieu. Verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Les pères ressentent pour leurs enfants une pulsion intérieure, une pulsion d'amour, comme le Seigneur Jésus l'a immortalisé dans la parabole du Fils prodigue. Et dans un cantique que Nous chantons de temps en temps le numéro 24, Ô mon âme exaltée chante, cantique qui est inspiré de ce psaume 103. La troisième strophe dit ceci: tel un doux et tendre père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Et en raison de cet amour de Dieu que David nous a prouvé, présenté, mesuré, illustré, nos cœurs devraient louer le Seigneur avec un amour pour lui, en réponse à son amour pour nous. Ces versets sur l'amour de Dieu parlent à tous les croyants, en particulier à ceux qui se sentent éloignés de Dieu. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, fait des déclarations puissantes sur ce thème. Dans 1 Jean 3, verset 20, par exemple, il nous dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur ». Ce qu'il veut dire, c'est que l'on doit faire taire notre sentiment intérieur de culpabilité et d'indignité. Et on doit le faire taire avec le témoignage écrasant de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, qui est plus grand que le témoignage de notre conscience accablée. Dans ce monde, si on veut être aimé, on doit le mériter. Et le résultat, c'est une mentalité de performance qui n'offre pas de paix réelle, pas de paix durable, pour la simple raison qu'on est toujours conscient de combien nous sommes vraiment indignes. Et parfois, on se demande comment Dieu peut-il vraiment m'aimer? Mais la parole de Dieu nous enseigne que Dieu nous aime non pas quelque chose parce que nous le méritons, mais à cause d'un grand amour qu'il a en lui-même. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 4, verset 8, « Dieu est amour ». Il poursuit les versets 9 et 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Il rajoute verset 16, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Verset 18, 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Notre désir d'être aimé ne repose pas, ne doit pas reposer en quelque chose qui est en nous, mais peut plutôt reposer solidement sur ce grand amour qui est en Dieu et qui nous a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Si on veut aimer Dieu, si on veut vraiment apprendre à l'aimer comme on devrait le faire, on doit commencer à apprendre et croire combien grand est son amour pour nous en Jésus-Christ. Et en faisant cela, on va montrer que notre amour pour Dieu, en pensant à lui, en lisant, en méditant sa lettre d'amour qui est sa parole, en le servant, en portant un amour particulier pour tous les croyants, parce qu'ils sont eux aussi les enfants aimés de Dieu. Aimer l'amour de Dieu, c'était le premier point. Deuxième point, admirer la grandeur et la gloire de Dieu. Comment louer le Seigneur? Premièrement, en ayant la gratitude pour les bénédictions reçues. Nous l'avons vu dans les premiers versets il y a 2 semaines. Deuxièmement, en ayant un amour plein d'adoration en réponse à l'amour parfait que Dieu a pour nous. Et troisièmement, en ayant cette admiration, cette crainte respectueuse devant la grandeur, la gloire et la majesté de Dieu. Versets 15 à 19. Dans les versets 15 à 16, David montre que la louange pour les hommes est quelque chose de déplacé, parce que tout ce qui manque à l'homme, Dieu le possède en abondance. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Nous, nous sommes finis. Dieu est infini. L'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu a aimé son peuple avant la création. Et son amour fidèle, immuable, inchangeable, est un amour qui dure pour toujours. David continue, verset 17. La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Cet amour éternel est un motif de louange envers le Seigneur, comme le dit ce cantique que j'ai déjà cité et qui dit au verset, à la quatrième strophe, « Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. » Et au verset 19, David va s'exclamer, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. » Le trône même du ciel est établi par sa main. Dans son commentaire sur les psaumes, Charles Spurgeon, après avoir fait son propre commentaire sur les psaumes, avait l'habitude de citer d'autres auteurs. Et sur ce passage, il cite un autre auteur du XVIIe siècle qui dit ceci, « Elle est fixe, elle ne chancelle pas, c'est une domination immuable. Tous les élans des hommes et des démons ne peuvent la renverser, pas même la secouer. Sa domination, comme lui-même, demeure à jamais. Et comme son conseil, son autorité tiendra, et il exécutera toute sa volonté. » Cette crainte respectueuse devant Dieu dans sa grandeur, peut-être la chose dont nous avons le plus besoin de récupérer aujourd'hui. Bien entendu, on a besoin de gratitude envers Dieu pour les bienfaits du salut. Il est difficile de placer quoi que ce soit avant cela. Et on doit adorer Dieu avec un amour, avec amour en réponse à son amour paternel pour nous. Mais la chose que nous avons perdue, que l'Église a perdue en général, c'est un sentiment de la grandeur, de la gloire, de la majesté de Dieu. C'est sans doute la raison pour laquelle tant de chrétiens aujourd'hui s'ennuient de Dieu. On a oublié ses bienfaits, alors il nous déçoit. On a banalisé son amour, alors nos cœurs sont froids. Nous avons besoin, en tant qu'individus, mais en tant qu'Église, de retrouver un sentiment d'émerveillement, de crainte, de respect, de voir Dieu tel qu'il est. Comme David le fait dans ce psaume, il le voit intronisé, en haut, régnant sur tout dans sa majesté impressionnante. Comme le dit un auteur qui écrit « De nos jours, nous devons commencer à retrouver un sentiment de crainte et de profond respect pour Dieu. Nous devons commencer à le voir une fois de plus dans l'infinie majesté qui appartient seule à celui qui est le Créateur et le Souverain suprême de l'univers entier. Il y a un écart infini de valeur et de dignité entre Dieu le Créateur et l'homme la créature, même si l'homme a été créé à l'image de Dieu. La crainte de Dieu est une reconnaissance sincère de cet écart. Ce n'est pas un dénigrement de l'homme, mais une exaltation de Dieu. Quelle différence cela ferait dans nos vies? Cela transformerait nos vies de dévotion. Au lieu de se contenter de quelque chose pour la semaine, on viendrait devant ce Dieu merveilleux, simplement pour l'adorer, pour apprendre de lui tel qu'il est lui-même. Cela transformerait chaque moment, chaque instant où l'Église se retrouve pour adorer, pour venir devant lui, méditer sa parole, venir lui apporter les sujets de prière. Cela transformait notre attitude envers l'ensemble de notre vie, dans les tâches les plus simples, comme dans les tâches les plus complexes, les plus importantes que nous accomplirons. Voir Dieu grand et saint nous poussera à rechercher à lui plaire dans tout ce que nous faisons, quelle que soit son importance. Et David termine et cette conclusion où il invite au monde entier, à toutes les créatures, de venir bénir l'Éternel. Ce cœur qui veut louer le Seigneur cherche des compagnons pour louer le Seigneur. Ceux qui louent le Seigneur comme David veulent que d'autres viennent pour le louer, qu'ils le louent ensemble. David cherche en haut, en bas. Il appelle tout le monde à louer le Seigneur. Verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. » Il y a un lien entre la reconnaissance, le culte de reconnaissance, de louange, d'adoration envers Dieu, et le fait de parler de cela à d'autres. Parler de la gratitude, parler de l'amour de Dieu, parler des bénédictions du salut, de son pardon, de cette majesté qui est au-dessus de toute la gloire terrestre. Et nous désirons par-dessus tout être présents là où Dieu est véritablement loué. En disant avec David, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et donc cela pose des questions. Cela nous pose à nous, à chacun d'entre nous, des questions. Est-ce que nous venons avec un désir de louer le Seigneur? Ou est-ce que nous faisons les choses par habitude? Il est facile de tomber dans un sommeil spirituel. Mais, comme le dit le verset 17, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. David parle de ceux qui glorifient Dieu dans la crainte, en pensant à sa majesté, à sa grandeur, à sa puissance, qui le place en premier dans l'ordre de toutes choses. Est-ce que c'est vrai pour nous? Une spiritualité tiède est aussi dangereuse aujourd'hui comme elle l'était à l'époque biblique. Le Seigneur Jésus, rappelez-vous, a donné un avertissement à l'église de Laodicée en Apocalypse 3. Il dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Avec cet esprit, cet avertissement à l'esprit, nous devons, comme David, nous accrocher à la parole de Dieu, veillez à l'appliquer à nos cœurs, afin que nous soyons de ceux qui louent vraiment le Seigneur. Nous devons compter les bénédictions que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Nous devons les compter avec action de grâce. Regarder avec amour à Dieu, en reconnaissant son amour infini pour nous. Nous agenouiller devant lui, en reconnaissant la grandeur, la majesté, la gloire, la puissance de ce Dieu, ce Seigneur de tout du monde entier. Et par la grâce de Dieu, en faisant cela, nos cœurs répondront comme le cœur de David, en s'exclamant comme il le fait au verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.